Bonjour et bienvenue dans The Storyline, le podcast qui part à la rencontre des experts du storytelling et des créateurs de contenu. Je suis Noémie Kempf et deux fois par mois, j'invite un ou une experte du storytelling et du marketing pour décrypter les stratégies qui font le succès et la désirabilité des marques. Chaque épisode se concentre sur un cas d'usage concret ou une industrie spécifique. Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, je rencontre Stéphanie de Milleville-Meyer, responsable communication et RP chez Mocha.care, la start-up qui propose aux entreprises une app pour prendre soin de la santé mentale de leurs collaborateurs. Dans l'épisode, on discute ensemble du sujet d'expertise de Stéphanie, les relations presse, mais aussi les bonnes pratiques pour placer des collaborateurs sur des médias reconnus et les secrets de la gestion de crise, ainsi que l'organisation d'événements réussis. Bonne écoute! Salut Stéphanie!
Salut Noémie!
Bienvenue dans The Storyline!
Merci de m'accueillir et de m'avoir invitée.
Avec grand plaisir, hâte de découvrir un petit peu tes activités et de plonger dans l'univers de la com et des relations publiques qui sont des sujets qu'on n'a pas particulièrement encore abordés dans The Storyline. Donc très contente de pouvoir creuser ça avec toi aujourd'hui.
Et ben, je suis ravie également de partager mon expérience et puis voilà ce que je fais, mon quotidien.
Mais justement, en parlant d'expérience, en général, on commence toujours par une petite description du parcours de l'invité. Est-ce que tu veux bien nous partager un peu toi ton parcours professionnel et ce qui t'a amené jusqu'à chez Mocha aujourd'hui?
Ok. Alors, j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience. J'ai commencé par travailler dans des agences de relations presse et de relations publiques, plutôt orientées B2C. Donc, je m'occupais d'abord, pendant 5 ans, je me suis occupée de marques comme Gillette, Oral-B, Duracell, et puis des marques de beauté comme Paul & Joe Beauté. Voilà, donc c'était assez varié. Et puis ensuite, pendant 12 ans, j'étais dans une autre agence dans laquelle je me suis à 99% occupée de la communication du groupe Mattel. Donc, c'est Barbie, Fisher-Price, Hot Wheels, les jeux de société. Et donc, c'était tout type de communication. Ça allait de la com de marque produit à la com de crise, en passant par la com instit. Et donc, j'ai fait beaucoup d'événements, beaucoup de com auprès des médias. Enfin, c'était passionnant et très riche. Et ensuite, j'ai fait une petite pause pendant 2 ans, période de Covid, où j'ai plus pris le temps pour mes enfants et ma famille. Et puis, je dois dire que qui dit période de Covid, dans un secteur comme la com et l'événementiel, c'était assez calme. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis dit que ça ne servait à rien que je m'excite.
Tu m'étonnes.
Voilà, je pouvais le faire. Donc, j'ai pris le temps, j'ai pensé à moi. Enfin, c'était très chouette. Et mes enfants ont bien profité de moi. Et puis, à un moment où c'est devenu un peu trop quanti versus quali, donc, j'ai senti que c'était le moment de penser à moi, mais d'un point de vue professionnel. Donc, je me suis remise à chercher. Et c'est vrai que j'avais envie d'aller plutôt vers des sujets qui avaient vraiment du sens. Et puis, plus B2B, parce que j'avais fait 17 ans de B2C. Et j'avais envie d'être sur des sujets un peu plus de fond. Et en fait, il se trouve que j'avais une de mes très bonnes amies qui venait de rejoindre l'aventure MochaCare sur la partie commerciale et qui m'a appelée quelques jours avant Noël. C'était
quelques... Je vois.
Pour me dire qu'il y avait un poste qui se créait en com et RP et me proposer de postuler. Et donc, en 15 jours, c'était fait puisque j'ai rencontré les deux fondateurs, fait mon étude de cas, rencontré deux autres personnes parce qu'il y a un vrai process de recrutement chez Mocha, mais qui est hyper rapide aussi. Et voilà, et en 15 jours, on a su mutuellement se séduire et j'ai rejoint l'aventure mi-janvier.
Solide, donc du coup, nouvelle année, nouveau job, nouveau challenge. Ouais. Et alors, pour les personnes qui ne connaissent pas MochaCare, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que fait la société, quelles sont ses offres, ses produits, sur quel secteur elle se positionne, etc.
Ouais, eh ben avec plaisir. C'est ce que je fais au quotidien, donc j'espère que ça va être assez clair, sinon
c'est
je vais m'inquiéter.
Pour le pitch.
Donc en fait, MochaCare, Mocha.care, en fait, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises. Tout type d'entreprise, ça va des startups au scale-up, en passant par les grands groupes, sur tous les sujets liés, les sujets de santé mentale. Et donc, on accompagne d'un côté les salariés avec des sessions individuelles, une application mobile et des sessions collectives. Et on accompagne également les équipes RH en leur permettant de mesurer l'impact de Moka et en comprenant vraiment comment Moka est utilisé au sein de leur entreprise, sachant qu'il y a un vrai souci de confidentialité. Donc, ils ne savent pas qui utilise Moka, pour quel sujet. Par contre, ils sont au courant de quels sont les principaux sujets qui sont abordés par leurs salariés et quel est le taux d'utilisation de la solution Moka au sein de leur entreprise. On les accompagne également avec ce qu'on appelle la Mental Health Academy qu'on a créée chez Moka, qui permet en fait d'accompagner les managers et les équipes RH avec un programme qui a été spécialement conçu pour eux et qui est sur 3 mois. Et donc ça, c'est plutôt du préventif. On les accompagne également en réactif en cas de situation de crise. Donc ça peut être un décès dans une équipe, un problème de harcèlement, un problème de licenciement. Et donc là, on leur fait un programme qui est sur mesure.
Ok, génial.
Et donc, ce qui est important chez Moka, et en fait, c'est ce en quoi on se différencie vraiment de la majorité de nos concurrents, c'est qu'on a une double approche qui est humaine et digitale. Donc, on ne sait pas, évidemment, l'application a une vraie place très importante, puisque les salariés puis, peuvent prendre rendez-vous pour leur call d'orientation avec les praticiens. Ils ont un programme de self-care avec plein de thématiques, que ce soit des fiches ou des vidéos ou des audios. Mais on a vraiment cette dimension humaine qui est essentielle chez nous, avec des psychologues qui sont salariés Moka et qui sont là pour orienter. C'est le premier contact pour les membres Moka des entreprises partenaires.
D'accord.
Et donc, qui permet d'orienter en fait les membres Moka vers le bon praticien en fonction de leur personnalité, leurs besoins. Donc, selon ça, ça va être soit un coach, soit un thérapeute, un psychologue. Et on se rend compte que il y a un taux de match qui est hyper important. Donc, c'est là où on réalise vraiment que, en fait, à un problème humain, il faut vraiment une réponse humaine. Et ça ne peut pas être qu'un chatbot ou une ligne d'écoute. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait vraiment
tout soit adapté. C'est de la musique à mes oreilles dans ce monde dans lequel on ne parle plus que d'automatisation, d'intelligence artificielle, de DALL-E, de GPT-3. Ça fait kiffer de parler d'humain, c'est bien. Mais je comprends et c'est intéressant que ce soit un élément différenciant dans votre stratégie. On y reviendra peut-être. D'ailleurs, quand tu pitchais... D'ailleurs, très bon pitch. Enfin, personnellement, j'ai tout compris.
Bon, bah, génial.
Merci. Et j'avais plein de petites questions qui popaient au fur et à mesure. Et je ne sais pas trop comment je vais structurer pour celle que je vais te poser. Parce que je trouve ça assez passionnant d'un point de vue stratégie de com et de contenu. Vous êtes un peu sur tous les plans, j'imagine, parce qu'il y a une partie d'évangélisation sur le marché, donc de prendre la parole sur le sujet de la santé mentale pour aller toucher et sensibiliser les salariés, les employeurs, les RH, etc. Mais ensuite aussi du contenu professionnel, j'imagine, créé avec des psychologues et du contenu plus produit. Donc ça fait pas mal de différentes couches dans votre funnel et votre stratégie. Mais ça, on va y revenir peut-être un peu plus tard. Je me souviens que quand on a parlé la première fois, tu m'as parlé de l'organisation de l'équipe marketing chez vous et que j'avais trouvé ça assez intéressant parce qu'elle n'est pas forcément similaire à l'organisation classique qu'on va retrouver dans les entreprises, qu'elle soit petite ou grande. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu à quoi ressemble l'équipe marketing chez Moka Care ?
Oui, alors on a un Head of Marketing qui en fait du coup permet de vraiment bien coordonner avec la Chief of Staff Marketing qui permet de bien coordonner les différents axes de communication et qui a un vrai fil rouge. Et donc ensuite au sein de l'équipe, dans l'opérationnel, on va avoir une personne qui va s'occuper de tout ce qui est brand content et donc qui va développer les différentes newsletters, un média qui s'appelle Moka Media et donc qui vraiment véhicule l'image et les valeurs de Moka. On va avoir et elle développe aussi ce qu'on fait chez nous, des case studies avec nos clients pour expliquer vraiment l'impact chez Moka, pourquoi, comment et quels sont les résultats. On va avoir une autre personne qui s'occupe de tout ce qui est SEO, SIA, réseaux sociaux. Alors ça, c'est vraiment leur métier, donc je ne peux pas rentrer dans le détail. et j'espère que si elles écoutent, je pense qu'elles écouteront le podcast, mais j'espère qu'elles ne m'en voudront pas si je ne rentre pas dans le détail complet de leur mission. Mais voilà, en gros, c'est tout ce qui est SEO, SIA, tout ce qui est autour du gros, c'est tout. Ensuite, on a une troisième personne donc, qui, pour le coup, s'occupe vraiment du gros. Donc, je ne m'étendrai pas parce que Voilà, je ne suis pas alors vraiment pas experte, encore moins sur le reste.
Pardonnez, c'était pas le sujet de l'épisode, voilà. Donc c'est pas grave.
Et puis ensuite, on a une autre personne donc qui coordonne et qui s'occupe ensuite de sujets vraiment spécifiques. Par exemple, on vient de lancer le premier podcast Santé mentale et monde du sport. Mm-hmm. Donc c'est elle qui gère avec le head of marketing qui gère toute la création de ce podcast et le suivi et la mise en place. Mm-hmm. Et ensuite, il y a moi. Et donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est com, extérieur, donc relations presse, relations, enfin, tous les événements. Et donc, les événements, que ce soit les événements sur lesquels on va faire des prises de parole ou les événements qu'on organise.
OK.
Et puis, je m'occupe également, d'où ma présence un peu ici aussi, des podcasts. Donc, mais pas notre podcast, les podcasts extérieurs. C'est-à-dire que l'idée, en fait, c'est de faire intervenir les fondateurs, mais pas que. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de faire découvrir un petit peu au grand public les différents métiers qui composent Mocha et qui font qu'aujourd'hui, cette aventure va hyper vite et qu'on est 60, plus de 60 aujourd'hui, sachant que l'entreprise a été créée il y a un peu moins de 3 ans. Et donc, ça va, on va avoir un sales qui va faire un podcast, une psychologue, les fondateurs, une personne qui s'occupe du product design, moi, la personne du recrutement. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est moi qui m'occupe de ça.
Tu places les gens, oui.
Voilà.
Ok, trop bien. Alors, on va revenir de son plus en détail sur toi, tes activités au quotidien, les relations presse, la recherche de partenaires, etc. Mais juste par rapport à cette organisation de l'équipe, ce que je trouve assez intriguant, c'est que finalement, si je comprends bien, bah, y a quelqu'un qui est un peu en charge des sujets brand et contenu, une personne qui est plus sur tout ce qui est SEO, référencement organique, donc diffusion de ce contenu de manière organique, une autre personne diffusion par le prisme du growth, une personne qui est chef de projet transversal, et toi qui es sur des sujets comme un peu plus institutionnels, partenariat, mais qu'au final, vous êtes tous, je ne sais pas s'il y a des garçons dans l'équipe.
Il y a un garçon,
vous êtes tous.
Il y a le head of marketing et les garçons.
Toutes voilà. .es.s, je ne peux pas faire d'écriture inclusive en parlant, malheureusement. Mais en tout cas, vous êtes impliqués sur les mêmes étapes du parcours client. Au final, du customer journey, comme on dit chez nos amis outre-Atlantique, outre-Manche.
Ici aussi. Hein.
Et aussi ici, c'est vrai, on est tous dans les anglicismes. Et moi, la première, je me fais souvent taper sur les doigts à cause de ça. Dessus, non, je ne sais pas ce que je raconte. Bref, et du coup, ça ne doit pas être facile tous les jours de vous coordonner sans justement vous marcher dessus ou empiéter les uns sur le périmètre des autres. Comment vous vous organisez en tant qu'équipe ? Est-ce que vous avez une manière spécifique de communiquer ou des objectifs très précis, une roadmap très claire avec une répartition des responsabilités, de l'ownership vraiment très assumée ?
Ouais, alors en fait, c'est ça qui est hyper agréable, c'est que c'est ultra structuré.
Ouais.
Et donc, on sait vraiment les missions de chacun. Alors, on a des réunions, on a des weekly. Donc, comme son nom l'indique, chaque semaine, on a nos réunions équipe marketing pendant lesquelles, en fait, chacun expose un petit peu ses différentes missions. Et donc, ça, du coup, ça permet vraiment d'être au clair sur
d'être aligné,
ce que chacun fait. Ouais. Et ensuite, c'est vrai que nous, chaque semaine, en fin de semaine, on explique un petit peu nos achievements de la semaine et nos priorités pour la semaine d'après. Et on a également ce qu'on définit aussi à chaque trimestre, c'est nos OKR,
ouais.
Donc Objective Key Results. Et donc ça, c'est en fait, on part des OKR de la boîte. Et ensuite, il y a les OKR d'équipe. Et ensuite, au sein de l'équipe, il y a les OKR individuels.
Okay.
Et donc ça permet d'être hyper clair sur qui fait quoi. Et donc, il n'y a pas du tout...
D'empiètement.
Il n'y a aucun malaise sur qui fait quoi. Et c'est vraiment très bien défini. Et il nous a fallu évidemment un petit temps pour structurer l'équipe. Quand je suis arrivée en janvier, il n'y avait pas d'équipe marketing. Donc, elle s'est faite progressivement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire du reuse de... En fait, le fait d'être en start-up fait quand même que j'ai l'impression d'être un peu Jean-Claude Van Damme de temps en temps. Du français, de l'anglais, parce que c'est tout ce que j'aime pas. Mais en vrai, je parle, il y a la moitié des mots qui sont en anglais ici, donc je suis obligée de refaire la même chose sans vouloir faire. Je ne sais pas comment on dit ce mot en anglais, parce qu'en plus, je suis vraiment pas très forte en anglais. Mais voilà, en tout cas, on réutilise des contenus qui sont créés.
Oui.
Typiquement, moi, la personne qui s'occupe de tout ce qui est brand, qui écrit, en fait, ça va me servir pour rédiger des tribunes que je vais soumettre aux médias ou pour mes communiqués de presse ou pour du contenu pour des événements. Et donc, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que en fait, on travaille vraiment, il y a vraiment cette notion d'équipe et de partage et d'entraide.
Bah oui, et puis j'imagine.
À un moment, on se sent se marcher les uns sur les autres. Ou, ouais. Et puis voilà. Et puis après, je pense que, je ne sais pas si ça joue, mais il n'y a pas tellement d'ego dans le, non plus dans l'équipe. Donc,
tant mieux.
Moi, j'en ai pas trop.
mais j'imagine, mais oui, et au final, vous alimentez le moteur les uns des autres. Faisons des petites blagues.
Exactement.
Par rapport au carburant, ça, c'est le moment.
En fait, on ne pourrait pas fonctionner l'un sans l'autre.
Oui.
Donc, c'est pour ça que ça fonctionne aussi très
Finalement,
bien.
Finalement, tu places une psy sur un podcast et puis le podcast va être réutilisé par la personne qui s'occupe du growth dans le cadre d'une campagne d'acquisition. Ça paraît assez cohérent. Et j'imagine que ça demande d'être assez agile dans le fonctionnement et je comprends l'intérêt des weekly et du fait
c'est de communiquer. C'est l'une de nos valeurs, d'ailleurs, l'agilité.
Ah bah très bien, j'ai touché juste. Génial. Ok, bah ouais, merci beaucoup d'avoir fait cette petite parenthèse, je trouvais ça assez chouette. Je ne mets pas trop le nez sous le capot de l'organisation des équipes marketing, généralement des personnes avec qui je discute, mais dans votre cas, je trouvais que ça valait le coup parce que je sais que c'est quand même un problème assez récurrent que j'ai moi-même rencontré dans certains de mes jobs auparavant, cette difficulté à vraiment être alignée, complémentaire et avancer main dans la main. Je sais que c'est un peu la croix et la bannière, donc je retiens les OKR et les weekly et la capacité, j'imagine, à communiquer... Et à ne pas avoir d'ego aussi. Très bien, merci. Et j'avais aussi un petit peu envie de replonger sur toi, ton métier. Finalement, les relations publiques, les relations presse, c'est des trucs... Alors, je sais que je suis biaisée parce que moi, je viens de l'univers du content, mais les RP, c'est quelque chose que je regarde d'un œil un petit peu curieux. Ça me paraît assez obscur et mystérieux. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu en quoi ça consiste déjà, ce métier ? Qu'on considère souvent comme faisant partie de la com plus traditionnelle et institutionnelle.
Alors, et qui est souvent un peu, d'ailleurs, je trouve, pas assez reconnu. Et pourtant, je connais pas un fondateur, enfin, je connais pas un entrepreneur, je connais pas une entreprise qui soit pas hyper contente d'avoir son papier dans les Échos ou dans le Figaro ou le Parisien.
Clair.
Je vais tous les citer parce qu'on ne sait jamais mettre à dos un média. Mais voilà, ça a quand même un véritable impact parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des influenceurs, des différents réseaux sociaux. Mais moi, je reste convaincue qu'en tout cas, en B2B, des papiers comme qu'on peut trouver dans les Échos ou les différents médias, le Figaro et tout, ont un véritable impact et ils sont encore très lus et que ce soit sur le web ou en presse écrite, en presse papier, je veux dire, moi je trouve que c'est essentiel et ça fait encore vraiment partie des différents outils de com. Qu'il faut prendre en compte.
Complètement.
Donc, le quotidien, alors les relations presse, il faut savoir que c'est un long travail, même un travail de très longue haleine. c'est beaucoup de veille. Il faut savoir, quand je suis arrivée, en fait, il n'y avait rien. Enfin, pas beaucoup, en tout cas. Il faut créer tout le fichier presse. Donc, ça veut dire identifier tous les médias, tous les journalistes, quelles sont les bonnes signatures. Donc, c'est beaucoup de temps de veille. Et puis ensuite c'est de la relation et de la relance personnalisée. Donc on dit souvent dans les agences de RP, et c'est vrai que c'était le cas puisque j'y ai travaillé 17 ans, mais qu'on avait un fichier de 853 journalistes et qu'on en connaissait vraiment 3. c'était pas vraiment des fichiers qualifiés.
Oui.
Donc c'est l'avantage finalement quand on arrive et que on part de from scratch quoi, vraiment on n'a rien. L'outil en fait c'est nous, l'outil c'est on a, parce qu'il existe plein d'outils où il suffit de cliquer et là ça nous sort des fichiers qui font effectivement 1000 noms, 500, enfin 2000 noms, alors que quand on n'a pas cet outil, que l'outil c'est nous, nos petites mains et puis nos yeux, on va aller vachement plus qualifier le fichier et donc et c'est ce qui en fait va faire que derrière on va avoir des super retombées. Donc, mon quotidien, parce que ce n'est pas que les relations presse, mon quotidien, mais mon quotidien, en tout cas, sur les relations presse, ça va être d'identifier donc, les signatures, de leur envoyer des mails avec des bons sujets. Ça a été le cas typiquement ce matin. J'ai écrit un mail à une journaliste du Parisien Écho qui fait une rubrique qui s'appelle « Vie de bureau », dans laquelle elle interviewe chaque semaine un psychologue du travail. Et donc du coup, j'ai envoyé un mail en lui disant que nous aussi, on avait des psychologues du travail. Mm-hmm. En lui proposant différentes thématiques. Et une heure après, j'avais un message en me disant intéressant, appelez-moi au 06. Ce qui est assez rare, déjà, avoir les 06. Voilà.
C'est clair.
Donc, félicitations. Et en fait, voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est un travail de fourmi.
Ouais.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est de pas seulement être en réactif, quoi. C'est de leur proposer des sujets, c'est de la négociation, c'est de travailler des sujets de fond. Et c'est ça que j'aime, moi, aujourd'hui, en RP, en B2B. C'est qu'on n'est pas là à appeler pour dire est-ce que vous seriez OK pour parler de mon nouveau chiffon ou en fait juste pur produit. Là, on est vraiment sur des sujets de fond.
Ouais.
Donc ça, c'est la partie purement relation presse. Ensuite, on a aussi avec les médias. Tu as une question peut-être?
Ouais, en fait, je me disais, je rebondis là-dessus parce que j'ai levé le doigt comme une bonne élève de 12 ans. je parlais justement récemment dans le podcast avec Anaïs Richardin qui était... directrice jusqu'à assez récemment de Madinès et on parlait justement de cette notion de se faire approcher parce qu'elle est du côté journaliste et donc on parlait de l'approche pas toujours subtile des startups notamment mais aussi parfois des grands groupes qui veulent avoir un papier dans le média, qui veulent avoir une mise en lumière et que il y avait rien de pire selon elle qu'une approche un peu froide, automatisée et pas du tout personnalisée. Et j'imagine que c'est une danse un peu subtile. Alors avant de passer sur le côté média, est-ce qu'il y a peut-être des... Enfin là, tu l'as déjà un petit peu résumé, c'est approcher le sujet de manière assez méta, entre guillemets, et personnalisée, et apporter de la valeur avant de demander quoi que ce soit. Mais est-ce que tu as des astuces, entre guillemets, comment tu crées et tu entretiens une relation avec des journalistes?
Alors déjà, en fait, il faut savoir un petit peu de quoi ces journalistes parlent. C'est-à-dire qu'effectivement, si on fait un bonjour et qu'on balance juste notre sauce et tout... Franchement, je crois qu'ils reçoivent plus d'une cinquantaine de mails par jour. Donc, la clé, c'est franchement la vraie clé, ça serait d'avoir le portable et puis un petit texto, un petit WhatsApp. Et donc, ça, c'est l'idéal,
oui.
Mais ce n'est pas toujours le cas. Moi, ce que j'ai fait quand je suis arrivée chez Mocha, c'est que j'avais identifié les articles qu'ils avaient écrits. Et donc, j'avais commencé par leur envoyer un mail en leur disant que, évidemment, je me présentais et tout, mais ensuite en leur disant que ce que j'avais aimé dans leur article, pourquoi j'avais aimé et pourquoi je pense que, du coup, ce serait intéressant d'envisager quelque chose ensemble, un papier sur tel ou tel thème. Voilà. Maintenant, il n'y a pas de secret. Ils sont pas là pour faire la promo des boîtes ou d'un produit ou un truc. Donc, il faut avoir quelque chose un petit peu à leur raconter. Et alors, ils sont souvent très... En tout cas, en B2B, ils sont souvent très friands de chiffres. Il faut que ce soit quand même très business ou d'un vrai nouveau produit. Ou alors, il faut que ce soit plutôt sociétal. Typiquement, avec le Parisien Éco, on est plus sur des sujets sociétaux, psycho.
Ouais.
Mais voilà. Donc, en fait, il faut qu'ils aient le sentiment que... On s'adresse à eux pour une vraie bonne raison et pas qu'ils sont le énième nom dans un fichier. Et voilà. Et tout ça, ça prend donc beaucoup de temps.
J'imagine. Et du coup, pardon, je t'ai coupé, tu allais enchaîner sur l'autre
aspect. Non, et donc du coup, l'autre versant, enfin, de l'autre communication qu'on peut faire avec les médias, et j'entends par là non payant, parce que c'est plus facile, évidemment. Il y a plein de trucs payants. Je me souviens, quand on a fait une levée de fonds, d'un coup, d'un seul, j'ai eu... plein de médias qui m'ont appelé pour me proposer beaucoup de partenariats. Mais si on veut ne pas payer, il y a les tribunes. Et ça, je trouve que c'est hyper malin ce que font les médias. C'est de donner du coup la parole. Ça permet d'avoir finalement une parole d'expert sur des sujets qui attirent.
Ouais.
Donc après, à nous d'écrire les bonnes tribunes et de réussir. Et on les soumet aux médias. Donc il y en a pas mal des médias aujourd'hui qui font ça. Et ensuite, ça apparaît comme une tribune et voilà. Donc ça, on commence à le faire.
Et du coup, ça comment... Enfin, est-ce que du coup, tu contactes le média et tu dis « Hello, on vous propose notre CEO
on vous propose ». Non, écris ta tribune.
D'abord, tu l'écris en entier. Ouais. Tu fais pas un petit pitch.
Parfois, c'est coup d'épée dans l'eau.
D'accord. Ouais, donc, il faut quand même faire le travail de rédaction parce que tu peux pas juste faire un petit pitch et avoir un go de principe. Ouais, c'est quand
en
même...
fait, on a le contact de la tribune et ensuite, on envoie notre tribune et ça, ouais, ils en ont plein qui leur soumettent. Donc,
j'imagine.
Et ça peut... Ça prend ou pas, mais
en effet, c'est gagnant-gagnant. Tu leur offres un sujet qui a généralement été écrit avec soin, qui potentiellement cadre avec leurs objectifs éditoriaux. Et toi, tu as une belle visibilité. C'est du win-win, c'est pas mal.
C'est pour ça qu'en RP, souvent, dans beaucoup de boîtes et dans les startups, je pense même encore plus, on parle beaucoup KPIs, ROI et tout ça. Et moi, je suis toujours l'espèce de vilain petit canard parce que c'est compliqué pour moi de donner des KPIs. On est vraiment sur un travail d'image.
Bien sûr.
Et moi, c'est vrai que je dis souvent que, en fait, plus ils vont être visibles, en fait, plus Mocha va être visible, plus on va avoir envie d'entendre parler de Mocha et on va vouloir les avoir au micro d'un podcast, dans une interview pour un média, sur le plateau d'une émission, sur scène pour un événement, voilà. Mais donc, du coup, c'est compliqué. C'est pas forcément générateur de lead. Enfin, voilà, donc c'est...
Bah, indirectement, mais après, c'est de toute façon...
Ça se mesure très difficilement.
La difficulté du content marketing, de manière générale, ou de tout ce qui est organique, c'est que tu vas maximiser les points de contact avec ton audience, que tu vas t'intégrer dans le coin de leur tête, mais que tu sais jamais et tu sauras pas mesurer quel est le moment ou le contenu qui a fait un tilt et qui a fait qu'ils ont cliqué sur le bouton contactez-moi ou être rappelé par un commercial.
Exactement. Et on peut pas te dire combien de personnes ont lu.
Non, impossible.
Voilà, donc c'est toujours plus compliqué et c'est un petit peu mon combat.
Ouais, est-ce que tu as quand même des éléments qui te font te dire « Ah, ok, on va dans la bonne direction ». Et je sais qu'il y a des outils, alors moi, je n'ai jamais utilisé personnellement, mais de social listening, où tu vas un peu mesurer les récurrences de mentions de ton nom de marque ou des choses comme ça. Enfin, toi, est-ce que tu utilises des outils ou est-ce que tu es plus sur du ressenti ?
Non. Mais en l'occurrence, par exemple, on peut mesurer, typiquement, quand je suis arrivée, en fait, très rapidement, il y avait un des deux fondateurs qui était passé sur BFM Business et on avait pu voir l'impact sur les visites sur le site et l'impact sur les visites sur la page LinkedIn de Mocha. Oui. Pile le week-end où il avait été interviewé.
Okay.
On avait lié ça, donc j'étais ravie qu'on lit ça du coup à ce passage télé.
A priori, c'est lié.
Et ensuite, j'ai envie de dire que c'est ce que disait un autre Pierre-Étienne, un des deux fondateurs, que en fait... Il se rend compte que ce travail fonctionne parce qu'il est de plus en plus sollicité et qu'on lui parle de plus en plus de Mocha et que de plus en plus de personnes lui disent « Waouh, Mocha a fait ça, j'ai vu ça. » Voilà, avant-hier, j'étais à un événement et puis j'ai une journaliste qui arrive qui dit « Ah, mais j'ai vu Guillaume Nekvif sur le plateau de BFM Business. » Donc ça, c'est toujours hyper cool d'entendre quand on entend ça ou que... Et puis après, on le voit sur le nombre d'abonnés. Enfin, il y a un énorme travail après à côté qui est fait. Tout est hyper complémentaire. Mais sur les médias, c'est toujours...
Un peu délicat.
Compliqué.
J'imagine. Et alors, du coup, comment est-ce que tu fais pour placer des gens ? Enfin, est-ce que tu... Ou plutôt, la question n'est pas comment tu fais pour les placer, ça on a bien compris, tu identifies les médias pertinents, tu imagines une proposition de valeur et tu vas les contacter et tu pitches un petit peu la personne que tu veux placer ou le sujet que tu veux placer. Comment tu fais pour t'assurer que toutes les personnes, tous les collaborateurs Mocha que tu vas placer sur des podcasts, des interviews, sur des plateaux télé, etc., que ce soit les collaborateurs, finalement, les employés ou les psychologues, j'imagine, qui représentent la marque au final, comment tu fais pour qu'ils véhiculent tous le même message, qu'ils respectent tous un peu la ligne éditoriale, si ligne éditoriale il y a, de Mocha et qui renvoient finalement des messages cohérents ?
Alors déjà, il y a... Quand on arrive chez Mocha, il faut savoir qu'il y a un onboarding comme j'ai rarement vu. Donc, on est hyper bien pitché sur les valeurs de Mocha, sur la mission de Mocha. Et puis, du coup, il y a une vraie transparence. Et puis, comme on a on passe par le canal Slack, donc en fait, on communique quand même beaucoup. On a beaucoup d'ateliers, des choses comme ça. Donc, on est quand même tous globalement hyper bien informés sur les messages voilà comment on veut être aligné de façon extérieure. Et puis il faut savoir que dans le process de recrutement chez Mocha, je trouve que c'est hyper important de le dire parce que moi j'ai jamais entendu de potes qui ont passé des entretiens et qui étaient passés par cette étape là mais il y a dans les 4 entretiens il y a un entretien qui est le dernier et c'est celui qui peut être finalement qui peut faire basculer bien ou pas, enfin oui. En l'occurrence pas bien si jamais ça ne fit pas parce que c'est les 3 premiers, mais sur les valeurs de la boîte.
Okay.
Et là c'est avec pas avec les fondateurs, pas avec un des chefs de l'équipe, c'est avec une autre personne avec qui là ça se trouve la personne ne travaillera jamais. Et l'idée c'est de voir si vraiment au niveau des valeurs de la boîte ça fit. Et il y a déjà des processus de recrutement qui se sont arrêtés chez Mocha suite à cet entretien parce qu'on sentait pas forcément que la personne allait fitter avec les valeurs de la boîte. Et pour nous c'est essentiel. Donc, quand le RH, le Head of People, est arrivé chez nous, il a fait des entretiens avec tout le monde. Et une des premières questions qu'il a posées, c'est quelles sont les valeurs de la boîte. Et il voulait vraiment s'assurer que les gens étaient au courant des valeurs de la boîte, qu'ils partageaient ces valeurs de la boîte et tout. Donc, c'est vrai que... Et puis, donc ça, c'est de manière générale. Et puis ensuite, moi, j'ai créé un outil, enfin un outil, une page Notion, sur laquelle il y a le Q&A avec la mission de Mocha, les messages clés, les chiffres clés, les do's, les don't, voilà. Les,
oui. Donc, un petit kit donc, presse, kit de com.
Et puis ensuite, quand il y a une interview, quand il y a des choses, bah, moi, je prépare quand même. C'est un peu mon job. Donc, je fais quand même les messages clés, j'ai les petits bullet points. Et après, ils ont leur discours et puis... ils sont plutôt prêts et voilà.
Mais la personne arrive quand même avec ses petites anti-sèches et elle n'est pas jetée dans le Far West sans rien. Okay.
Et après, c'est quand même, de manière générale, depuis 9 mois, depuis que je suis là, c'est quand même souvent les deux fondateurs qui prennent la parole.
Oui.
Et heureusement, ils sont hyper alignés avec la boîte qu'ils ont montée.
c'est rassurant.
et puis, ils sont très bons. Ouais. En toute objectivité, c'est des très bons communicants. Parce que c'est pas dit à tout le monde, quoi. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Comme on n'est pas de manager, on n'est pas non plus bon communicant. Voilà. Donc, du coup, c'est. Et j'ai jamais eu aucun problème sur un truc qu'il aurait jamais dû dire. Et les sales, j'ai envie de dire que, par exemple, quand c'est les sales, je suis très à l'aise parce que c'est quand même ceux qui vont aller chercher le client.
Oui,
ils ont tout intérêt à savoir bien parler de Mocha.
Généralement, ils gèrent le pitch, ouais, aussi.
Ouais. Presque ceux qui gèrent le mieux le pitch, en fait.
Oui, tu m'étonnes. Mieux que les founders. OK. Et bah, du coup, tu disais, j'ai jamais eu de problème avec, chez Mocha avec quelqu'un qui aurait dit quelque chose qu'il ou elle n'aurait pas dû dire. Ça, c'est aussi un sujet dont je n'ai jamais trop parlé avec les invités, c'est la gestion de crise. Toi qui as fait de la com un peu institutionnelle, qui a été quand même dans des grands groupes B2C, j'ai retenu quand même pas mal de beaux noms. Est-ce que tu as déjà été confronté à des situations de crise? Est-ce que tu as déjà fait de la gestion de crise, de la com de crise, pas
alors,
forcément chez Mocha?
Ouais. Quand je suis arrivée justement dans la chance pour m'occuper de Mattel, je suis arrivée le début juillet. 3 semaines plus tard, on avait au final, la plus grosse crise que Mattel ait connue, c'était en 2007.
Bienvenue.
C'est un rappel de produit, un rappel de jouet. Donc effectivement, en plus, dès qu'on touche à l'enfant, c'est normal et
Bien sûr, c'est
hyper tendu. Et donc, en fait, on en a eu entre fin juillet et mi-septembre, on a eu 3 rappels comme ça de produits.
Qui étaient défectueux ou il y avait un problème un petit peu.
Sur l'un, il y avait de la... Ils vont être ravis que je reparle de ça maintenant. il y avait de la peinture au plomb sur un des produits et les autres, j'avoue que c'était il y a quand même 15 ans.
Ouais, en tout cas, c'était des trucs pas top.
Je me souviens plus, mais en tout cas, le premier, je me souviens que c'était de la peinture au plomb sur l'un des jouets. Bref, c'était assez chaud. Et donc, c'est vrai que... Alors, en plus, c'était avec les US. Mattel, c'est un groupe américain. Donc, c'était hyper cadré. Mm-hmm. On avait un statement, les Q&A. Mais bon, n'empêche qu'on était sur le pont. On devait anticiper les demandes. Donc, on avait anticipé avec l'AFP, Reuters, les différents grands médias, plus Echo et tout. Mm-hmm. Et donc là, c'est rien... Enfin, voilà, en gros, rien lâcher. Et en fait, le fait d'anticiper et surtout de ne pas être langue de bois, d'assumer, en fait, ouais, on a fait une erreur, on assume, voilà, en fait, aujourd'hui, notre plan d'action et comment on va réparer cette erreur. Mm-hmm. Et en même temps, ce qui était important, c'était aussi de rassurer et de montrer qu'on avait réagi assez vite, que Mattel, en l'occurrence, avait réagi assez vite. Et donc, finalement, ça passe par une préparation... en amont des différents... Parce qu'évidemment, le jour où ça sort, on l'a su. Et donc, du coup, toute la préparation de la communication a été faite. Mais, j'ai trouvé ça passionnant parce que c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant.
Oui, et
mais
parce
par
que...
contre, il y a des agences qui sont spécialisées en com de crise et tout, mais jamais de la vie, je pourrais faire que de la com de crise. C'est-à-dire qu'on vit, mais en étant sur le pont, en étant tendu. En fait, on ne vit... C'est pas du tout santé mentale, en fait, comme job, je trouve.
Oui, j'imagine.
C'est de la tension permanente.
Oui.
Voilà. Mais par contre, c'est sympa, de temps en temps.
Oui, du coup, plusieurs étapes. Tu assumes, tu réagis et tu expliques comment tu vas faire. Ouais. Et donc, j'imagine que tu dois communiquer.
Transparent, en fait.
Transparence, réaction. Et ça, à plein de niveaux, parce que j'imagine qu'en termes de com, tu dois communiquer auprès, en effet, des médias grand public, des agences institutionnelles, de ton site web. J'imagine que tu fais
t'as les consommateurs,
de l'assistance, du support, quoi, et des réseaux sociaux. Donc, c'est quand même. Donc là, tu dois bosser main dans la main avec toutes les équipes comme Content.
C'est du vrai 360.
Ok. Ouais. Avec toujours cette notion de transparence et le fait d'assumer.
Exactement. Mais ça, en fait, c'est valable pour tout. C'est-à-dire que demain, on a une crise avec un client. En fait, l'important, c'est de s'excuser, d'assumer et de proposer un plan d'action qui va montrer que, on réagit, qu'on est capable de se remettre en question et de proposer autre chose, en fait, qui fonctionnera mieux ou, en tout cas, de plus se retrouver dans une situation qui est pareille, quoi.
Oui, qui est compliquée. Mmh. Ok, très bien. Merci. Et du coup, tu me disais que tu gérais aussi les événements. Alors, comment ça se passe chez vous ?
Alors, chez nous, les événements, il y a deux types d'événements. Il y a les événements sur lesquels on est invité et on vient en tant qu'intervenant. Donc ça, on en a pas mal. C'est vrai que on est assez sollicité. Ça va de France Digital à Bigate, de BPI, à une conférence, là, par exemple, hier, dont la thématique était le salarié est-il un sportif de haut niveau, qui avait été organisé par une autre entreprise qui s'appelle Javelot. Mm-hmm. Donc ça, c'était hyper intéressant. C'est participer à des tables rondes. On en fait une autre avec un club d'entrepreneurs qui s'appelle French Founders. Il y en a pas mal. Et puis ensuite, on a les événements qu'on organise en interne. Alors, en l'occurrence, moi, je m'occupe d'un événement en interne qui s'appelle le Tech Care Connect, qui est en fait un cercle pour DRH, pour RH, pas que DRH, mais pour les RH. Et l'idée, c'est de les inviter tous les deux mois, en fait, chez nous, autour d'un petit déjeuner. Et on leur propose, en fait, avec nos psychologues et puis d'autres praticiens, selon la thématique qu'on choisit, d'échanger autour d'une thématique spécifique. Par exemple, la dernière, c'était sur la sécurité psychologique. Et l'idée, c'était comment, en fait, faire de ce sujet un levier de performance et de care pour les entreprises, au sein de l'entreprise. Et donc ensuite, ce qui est important, et on voit que ce qui plaît, c'est aussi le côté échange entre pairs et que chaque RH qui est présent puisse bénéficier de conseils ou partager ses bonnes pratiques. Donc en fait, on fait ça tous les deux mois et ensuite, on leur donne un peu une espèce de toolkit sur le sujet. Donc, on va lancer le prochain fin novembre qui va être plus axé sur l'anxiété et en fait qui est réveillé par les crises environnementales, sociétales ce que ça génère en fait l'inflation, la crise géopolitique, la crise climatique et du coup ça peut développer ce qu'on appelle des éco-émotions chez les salariés et donc comment on y fait face et comment on fait en sorte que d'accompagner le salarié parce qu'en fait nous l'inflation on n'y peut rien et on va pas non plus augmenter tout le monde tout le temps dès qu'il y a
compliqué.
Voilà. Mais en même temps il faut bien les accompagner la crise climatique tout ça quoi. C'est vrai qu'il y en a qui sont sensibles et c'est vrai que c'est important et en fait les RH sont pas forcément comme les managers sont pas forcément équipés sur ce type de sujet quoi.
Oui. C'est marrant, dans les épisodes, c'est vraiment le sujet du moment dans tous les épisodes, mais je pense que je l'amène aussi sûrement d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours un point Godwin de l'écologie.
L'éco-anxiété, on a un webinaire d'ailleurs avec Eric Sutter qui est spécialisé sur l'éco-anxiété. On a un webinaire le 8 décembre, j'en profite.
Très bien.
Parce que le podcast sera sorti avant, donc qui va être passionnant.
Bah parfait, on le note. Et d'ailleurs, ça m'amène à la question, je pense qu'il nous reste encore un peu de temps quand même pour quelques petites questions. J'imagine que certains sujets sont amenés par tes partenaires, par les boîtes avec lesquelles tu collabores pour les événements, mais quand c'est vous qui décidez des sujets, comment tu vas choisir et éditorialiser chaque événement ? Comment tu choisis le sujet ? Est-ce que c'est de l'écoute ? Est-ce que c'est les sales qui vont faire remonter les sujets cruciaux ? Et donc, du coup, les événements sont quand même dans une optique de conversion ? Est-ce que c'est plus les psys qui vont avoir leur mot à dire ? Est-ce que c'est le marketing qui choisit ? Enfin, qui drive, entre guillemets, la décision ?
Eh ben, c'est un travail d'équipe, typiquement pour les sujets du Tech Care Connect. On travaille avec l'équipe MHT, donc c'est Mental Health Team. Mm-hmm. Donc, ils sont quand même psychologues, c'est vraiment leur métier, ils savent quels sont les sujets, ils sont en contact direct avec les membres et tout, donc ils voient bien les sujets qui émergent le plus. Et puis, on a l'une de nos psychologues qui est une ancienne RH, donc ça, c'est génial d'avoir cette double casquette. Et c'est celle avec qui je travaille sur ce... On a un binôme sur ce projet. Et donc, elle a cette... moi, je suis sur la partie plus com et organisation. Et elle est sur la partie contenu. Elle est plus dans le dur, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, donc, on travaille avec elle. Et on travaille aussi avec la Head of Customer Care. En fait, c'est... les Customer Care, chez nous, c'est ceux qui... il y a les sales, d'abord. Donc, eux, ils sont en charge de pitcher les prospects et de décrocher des nouveaux clients. Et ensuite, ça passe dans l'équipe des Customer Care qui prennent soin de nos clients. Mm-hmm. Et donc, c'est eux qui sont finalement en contact au quotidien avec les clients qui, du coup, font face aux différents besoins, aux différentes thématiques, problématiques. Et donc, ça, avec, du coup, avec la Head of the Customer Care, c'est toutes les trois qu'on a travaillé sur le sujet du prochain Tech Care Connect. Et ensuite, on valide avec les deux fondateurs et le Head of People.
D'accord.
Qui est quand même hyper bien placé pour dire si en tant que RH, parce que c'est vraiment notre cible, si en tant que RH, ça lui parle, est-ce que lui se déplacerait tout.
Ok. Donc, une fois qu'il y a la validation, c'est parti.
Ouais.
Ok, et
donc,
trop bien.
Par demain, d'ailleurs.
Ah bah écoute, bon courage. Ok, trop bien. Et ensuite, donc, tu disais que les participants repartent avec une toolkit. Comment tu relies les événements à des objectifs commerciaux ?
Eh bien, en fait, il y a un véritable objectif de rétention de nos clients. Mm-hmm. Puisque l'idée, c'est de leur montrer, parce que c'est une chose, effectivement, tout ce qu'on propose, la solution Mocha et tout. Mais c'est vrai qu'on a envie de... L'objectif de ce Tech Care Connect, c'est aussi de se positionner en tant qu'expert sur le sujet.
Ouais.
Et donc, et en même temps, de leur faire rencontrer d'autres RH, qu'ils soient clients ou pas, hein, chez Mocha. Et donc, du coup, il y a cet objectif de rétention. Nos clients se disent, ce qui est génial avec Mocha, c'est que non seulement ils accompagnent nos salariés, ils accompagnent nos managers et les équipes RH, mm-hmm. mais en plus, on apprend vachement grâce à eux, mais aussi grâce à tous ceux qui nous mettent, qu'ils invitent et avec qui on rentre en contact, on entre en relation. Donc, il y a cet objectif de rétention. Et ensuite, il y a évidemment cet objectif d'attractivité pour des prospects, pour leur montrer que chez Mocha, on a ces clients-là qui sont top et qui sont hyper, hyper satisfaits. Et puis, le fait de leur montrer qu'on maîtrise des sujets, qu'on a des experts chez nous, peut leur donner envie de signer.
De signer, ok, trop bien. Ouais, je trouve ça trop cool de me dire qu'au final, ton activité et ton travail va vraiment couvrir de manière très large, encore une fois, tout le customer journey avec la visibilité, la découverte de la marque et la diffusion des messages de la marque, notamment par le biais des médias, des journalistes, mais aussi la fidélisation et la récurrence des interactions par le biais des événements.
Ouais,
c'est exactement. Vraiment très très complet.
Et donc ça c'est notre partie plus interne et mm-hmm. ensuite on a la partie externe et donc sur laquelle qui prend du temps mm-hmm. et qui est puisque en fait c'est préparer chaque prise de parole pour l'intervenant, donc c'est souvent un des deux fondateurs pour le coup.
Ouais.
Et ça il y a ils sont quand même très sollicités, donc ça me prend aussi une grosse partie de mon temps. Donc ça c'est sur la partie et pour l'instant on n'est pas trop sur les salons. On est obligé de prioriser parce que moi, je suis seule aussi sur ce sujet, donc on peut pas être sur tout dans un temps deux, évidemment qu'on aimerait après aller sur des salons et tout ça, mais c'est vrai que pour l'instant on n'y va pas. Et puis et en fait la dernière partie, puis après il y a des choses évidemment qui se rajoutent tous les jours. Ça c'est le propre des RP, c'est que on en reçoit tous les jours des demandes. C'est la partie podcast parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est un média à part entière et qui est hyper important et que les gens adorent. Je trouve qu'en plus dans une société où on est quand même vachement à vélo, alors je suis pas en train de dire que je ne prône pas les écouteurs sur le vélo, même si je le fais moi, mais n'empêche que ces moments-là sur le vélo ou en métro. Voilà, je trouve que c'est vraiment des moments on se coupe des écrans, on est juste, c'est une forme de méditation sans l'être, quoi, parce que juste on est avec nous-mêmes et la personne qu'on écoute. Et donc, nous, on privilégie vraiment beaucoup aussi ce média. Et quand je suis arrivée, Pierre-Étienne m'avait dit, moi, j'adore, je suis absolument fan des podcasts. Donc, j'avais bien compris le message. Donc, rapidement, je me suis mise sur... sur j'ai déjà fait, donc rapidement, je me suis mise sur le sujet. Mmh. Et puis, voilà, on varie. Ça va des podcasts qui sont plutôt axés entrepreneurs ou à impact, comme des podcasts content, comme des podcasts plutôt product ou sales ou recrutement. Ou,
storytelling.
Voilà, tout. Quoi. Enfin, tu vois, c'est...
Trop bien.
Je trouve qu'on a plein de choses à raconter, quoi. Et puis, ouais. La santé mentale, c'est quand même un sujet qui parle à tout le monde.
En bien fait, sûr.
Ouais, en tout cas, qui devrait parler à tout le monde.
Ouais, ça te permet de moderniser l'approche RP et d'aller chercher les gens sur des canaux sur lesquels ils vont être de plus en plus présents. Ok, bah, génial. Franchement, c'était hyper complet. Je pense qu'il y aurait encore mille trucs à raconter. Mais
il y a quand même un sujet en ce moment qui est hyper d'actualité chez nous. C'est ce que je disais, qu'on a lancé un podcast.
Ouais.
Donc ça, c'est une de mes petites missions, mais j'adore et franchement, ça m'éclate. C'est que notre podcast, donc, c'est avec des sportifs de haut niveau.
Mm-hmm.
Et donc, une des missions, c'est de trouver des sportifs de haut niveau et qui sachent parler de santé mentale, qui veuillent parler santé mentale. Et donc ça me prend aussi pas mal de temps, mais on est ravis parce qu'on a un super accueil et que là, on vient de sortir, hier, on a sorti le premier épisode avec Blaise Matuidi et qu'on a enregistré avec Alizé Cornet et qu'on va enregistrer là avec Paul-Henri Mathieu, avec Fabien Gillot, le nageur, avec Fabien Pelousse, ancien grand joueur de rugby, directeur du Stade Toulousain. Enfin, on va avoir Antoine Dupont, on va en avoir d'autres.
Que des beaux noms.
Ouais, franchement, c'est très chouette. Et ça fait partie aussi des actions qu'on fait chez Moka qui sont aussi canons et qui font que c'est ultra dynamique, quoi. On s'ennuie pas et on n'est pas là dans une... On sort aussi un peu de notre zone de confort, quoi. C'est-à-dire que c'est pas si facile, mais on y va.
Et... J'imagine. Et vous avez des beaux ambassadeurs pour faire rayonner la marque et ses messages.
Ouais, on se donne les moyens d'en avoir des beaux, en tout cas.
Ouais. Bah, bravo. Bah écoute Stéphanie, merci beaucoup pour tous ces conseils et ces témoignages, c'était vraiment hyper instruisant.
Eh ben écoute, merci à toi pour ton écoute et puis c'était un exercice, c'était ma première.
Tu l'as fait avec brio, bravo.
Merci beaucoup.
Merci Stéphanie, salut.
À bientôt, Rémi. Ciao.
Bye. Alors, l'épisode vous a plu ? De mon côté, j'ai beaucoup aimé discuter du sujet des RP qui est, à mon avis, encore un peu trop le parent pauvre du marketing. Car puisqu'il est compliqué de quantifier l'impact d'actions de com organique, les jeunes entreprises ont tendance à mettre de côté le sujet de la visibilité dans les médias et celui des partenariats de communication. Stéphanie nous prouve avec brio que c'est pourtant un excellent moteur de contenu qui peut permettre non seulement de faire découvrir la marque, mais aussi de fidéliser les clients existants. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite dans The Storyline.